prochain Masque et la Plume.
C'est grandiose, tu respires.
Rendez-vous demain dès 19h devant la porte B de la Maison de Radio France.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
France Inter. La voix est libre.
15h04 d'ici quelques secondes sur France Inter. Tout de suite là-bas, si j'y suis, c'est avec Daniel Mermet.
Alors voilà, ceci est mon dernier message. Je viens d'apprendre que les joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 allaient se mettre en grève et je ne pourrais pas le supporter. Je préfère mettre fin à mes jours. Adieu.
Salut Mermet, première fois que je manifeste. Je manifestais la semaine dernière contre l'écotaxe. En 8 jours, c'est plié, le gouvernement fait marche arrière. Finalement, en écoutant tes émissions, j'ai appris quelque chose. Se mobiliser, ça sert, la preuve. Allez, salut Mermet, salut chers AMG, à bientôt.
Bonjour Daniel, bonjour à tous. C'est le Café Repère de là-bas si j'y suis, de Montluçon, qui vous invite à nous rejoindre, comme tous les premiers samedis du mois à 18h, à la Pinte d'Étain. Ce samedi 2 novembre, la volonté de bonheur. C'est le titre d'une superbe exposition de témoignages photographiques du Front Populaire de 1934 à 1938. La volonté de bonheur nous permet de relire l'histoire politique et sociale des luttes de cette époque à travers les photographies de Brassailles, Capa, Doineau et bien d'autres anonymes. Et alors, aujourd'hui, quelle est notre volonté de bonheur ?
Bonjour, je suis très choquée d'avoir assisté à l'intervention à Belleville aujourd'hui même, nous sommes mardi, de la police municipale voulant faire déloger des vendeurs à la sauvette, des Roms pour la plupart, il est vrai. Ces policiers se sont permis de shooter avec leurs pieds sur les affaires de ces personnes sur les trottoirs. J'ai filmé la scène, un policier est venu me voir en me demandant de supprimer cette scène, de supprimer mon petit film. Ce que j'ai refusé évidemment. Moi je suis vraiment choquée et vraiment révoltée hein, de la politique de la ville actuellement, puisque ce sont des policiers municipaux, je précise. Il faudrait quand même permettre à ces gens de vivre, qui vivent dans une extrême pauvreté, de pouvoir gagner quelques sous pour se nourrir. Puisque Madame Duflot, en l'occurrence, déplore le traitement que l'on fait aux Roms, peut-être que, en tant que ministre de l'égalité du territoire et du logement, pourrait-elle faire quelques propositions permettant à ces personnes de vivre dignement et de pouvoir quand même subsister, donc de pouvoir vendre ce qui leur permet effectivement de se loger, de se nourrir. Voilà, c'est un cri du cœur. Hein. Au revoir.
C'est drôle, c'est écotaxe. Ça ne concerne que les professionnels de la route, ceux qui déjà paient moitié moins cher le gazole et qui râlent encore parce que c'est cher, c'est trop cher. C'est toujours trop cher. Et les camions, il faut que ça roule, sinon on touche même plus les primes de l'Europe. Mais vous, chers AMG, vous qui allez juste bosser, vous payez le litre plein tarif, pas d'allègement, pas de ristourne, rien. Vous en pensez quoi de l'écotaxe? Puisque c'est bien connu, pour se déplacer, il n'y a que la voiture. Eh bien, une solution, pédalons. Est-ce que le plein d'un vélo, c'est ruineux? Est-ce impératif d'avoir le dernier vélo à la mode qui sort à la télé? Est-ce qu'il y a des tas de pubs débiles pour les vélos? Vous sentez-vous obligé de prendre votre vélo pour aller bosser? Roulons un vélo, merde à Renault, zob à Peugeot, crotte à Citroën. Et du coup, ben, adieu l'écotaxe et vive la Bretagne sans gazole. C'était Pascal de Lyon.
Bonjour, je vous appelle de l'Agence de la Justice Sociale de Pologne. Je voulais vous dire que Piotr Cichanowicz a été arrêté ce matin par la police et il est emprisonné. Il a entamé une grève de faim pour un jugement injuste contre lui parce qu'il a essayé de bloquer une expulsion il y a quelques années. Et nous sommes ici et des actions seront entreprises pour sa défense. Le président de la République a refusé de le gracier. Je vous souhaite bon courage pour votre émission. Merci, au revoir.
Merci, amis polonais, de nous donner des nouvelles de Piotr Cichanowicz. Il y a 2 jours, il était dans là-bas si j'y suis, ce militant, ce lutteur social, avec son agence de justice sociale, il nous avait expliqué à Antoine, Tchao et moi, qu'il risquait effectivement de se faire arrêter et d'être mis en détention parce que, on vient de nous le dire, il s'est opposé à une expulsion à Varsovie. Voilà, l'envers du miracle ultra ultralibéral polonais, inégalité croissante, difficultés, on les a évoquées, et puis ben voilà, ça se passe pas comme ça quand même, il y a des gens qui luttent et qui sont réprimés de cette façon. Piotr Ikonowicz, donc, pour commencer cette troisième heure en Pologne, plombier, miracle et gaz de schiste, là aujourd'hui c'est plutôt le mot miracle qui va nous intéresser, miracle, 30 000 prêtres et religieuses en Pologne, 10 000 paroisses, 35 millions de fidèles, c'est une affaire qui marche très bien, la toute puissante église catholique pèse très lourd sur la Pologne, une église conservatrice, nationaliste, accusée de xénophobie, vous savez comme les gens, les mécréants sont de mauvaise foi, et puis surtout une église mise en cause dans toute une série d'affaires d'abus sexuels sur mineurs. Et puis il y a quelques semaines, début septembre, le président de l'épiscopat polonais, lui-même, monsieur Joseph, Monseigneur Joseph Michalik, qui rendait responsables les parents des enfants victimes et les enfants eux-mêmes, en déclarant ceci: un abus a lieu quand l'enfant cherche l'amour, il s'attache, il cherche et il se perd lui-même tout en y entraînant un autre homme. Alors, la déclaration a fait scandale, c'est peut-être ça qui est intéressant à travers tout le pays. Le prélat Monseigneur Joseph Michalik a dû faire des excuses et entourer ça de circonlocutions, de fumée, d'encens, comme bien connu. Et voilà, mais enfin, c'est quand même un phénomène. Voilà que une majorité quand même de Polonais condamne l'attitude de l'Église et la parole des victimes commence enfin à se libérer dans ce pays très, très, très catholique. Voilà notre sujet du jour. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Le Conseil d'État l'a décidé, il n'y aura pas de salle de shoot en France. Pour se shooter dans de bonnes conditions, il faudra donc attendre cet été, s'acheter un vélo et s'inscrire au Tour de France.
Bonjour AMG de Strasbourg et alentour. Nous avons rendez-vous le samedi 2 novembre à 15h au bar La Perestroïka de rue Tiergarten. C'est tout près de la gare. À samedi.
Młodych Polaków i Polki, obdarzaj mocą Ducha Świętego, by mogli rozpoznać Twoją boską miłość, przyjąć do swoich serc i realizować ją w życiu.
Devinez où on
est.
On est à Varsovie. On est dans une voiture à Varsovie et on écoute la radio. Et on écoute la radio la plus populaire en Pologne, Radio Maria. Et c'est l'heure de la prière. Mais c'est presque toujours l'heure de la prière sur Radio Maria. Sœur Eva, vous pouvez traduire.
Vierge Noire, donne le courage à ces jeunes à ne pas tomber dans la dépendance, dans la drogue. Donc c'était les dernières paroles de cette prière. C'était une prière pour les jeunes. Donc pour leur donner le courage, et notamment le sujet principal, c'était les dépendances.
Ah bah oui.
Et la prière était adressée à la Vierge Noire.
La Vierge Noire, qui est la Vierge de la Pologne.
Voilà, de Częstochowa, donc un lieu de pèlerinage, c'est l'équivalent de Lourdes en France. En Pologne, c'est Częstochowa, où il y a un monastère là, avec une magnifique Vierge Noire, qui est la Vierge Marie, qui est la patronne spirituelle de la Pologne, la protectrice. Jésus, je t'aime. Jésus, je te fais confiance. Jésus, je t'aime. Jésus, montre-moi la route. Jésus, adopte-moi. Jésus, couvre-toi.
GPS.
Ouais, c'est le GPS.
Jésus, c'est le GPS.
89 FM, voilà, le GPS.
Quelle honte. Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Antoine Chao, Pologne, plombier, miracle, les gaz de schiste. Laissez venir à moi les petits enfants. Flight number two, arriving from New
York. Pozdrawiamy wszystkich Łukaszów, Julianów, Ambroży, Bogumiłów,
Ziemowitów. Quand il y aura des bifurcations, tu serres à gauche.
Raconte-nous ce que c'est un peu Radio Maria.
Mais c'est le Ojciec Rydzyk, donc c'est le père Rydzyk, il s'appelle comme ça. Donc c'est un prêtre de la confrérie de
la rédemption.
Voilà. Et c'est un empire médiatique en fait qu'il a créé il y a déjà longtemps. Hein. Après la chute du régime quand même, hein. Donc c'est un nouveau phénomène. Donc lui, il a une radio, Radio Maria, donc c'est très, c'est plein de foi, mais en même temps, le message qu'il transmet, c'est très antisémite, c'est violent. Hein, donc ça, c'est vraiment le catholicisme assez fanatique et assez extrême. Hein.
Ça ne pose pas de problème, il a beaucoup de succès.
Ah oui, il y a 5 millions, on dit qu'il a 5 millions d'auditeurs.
Ah ouais.
Et de lecteurs, parce que c'est...
Il y a un journal.
C'est une radio, il y a un journal, il y a la télé. Donc, on évalue à 5 millions, c'est fidèle.
Lui-même, il fait de la politique ?
Beaucoup, oui. Oui, il fait beaucoup de politique, parce que, c'est-à-dire, lui, lui-même, il n'occupe aucune fonction politique.
Oui.
Mais il fait la politique dans le sens où il se prononce sur tout, hein, donc à chaque fois qu'il y a une élection, etc. Donc lui, il appelle à voter pour un tel et non pas pour un tel. Et dès qu'il y a justement toutes ces victimes des différents abus de l'Église ou des anomalies et pathologies de l'Église, il les défend très violemment.
Personnellement, il vient à l'antenne, il se présente lui-même, il parle.
Bien sûr, il prend la parole, hein, personnellement. À un moment donné, il a fait un appel aux fidèles pour qu'on lui envoie des sous pour je ne sais plus quelle grande cause. Et au final, la cause est tombée et il n'a jamais...
Il a gardé l'argent.
Voilà.
Ah, ça c'est bête.
Instrukcje, że mamy zaczynać informacje czy wprowadzenie w życie seksualne dziecka od przedszkola.
Halo, halo. Kto do nas telefonuje?
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Weronika.
Witam Ciebie, Weroniko. Za kogo będziesz się modlić?
Łęgo Tarnowskiego, Telewizję Trwam i Radio Maryja.
Imię Ojca?
Laissez venir à moi les petits enfants, dialogue sur Radio Maria avec des petits enfants aux innocents, les mains pleines, enfants de cœur à la croix de bois, pédophilie dans l'église et dans les églises, un peu partout dans le monde. Ces dernières années, ces derniers temps, les scandales ont éclaté partout. Mais en Pologne, c'est encore, il y a encore un couvercle, c'est encore un tabou, même si ça bouge énormément. Vous connaissez un petit peu là-bas, si j'y suis, on n'est pas particulièrement chauvin, on n'est pas particulièrement francolâtre. Mais quand même, il y a des moments où on est assez content que nous autres, les Français, ayons réussi à nous affranchir de l'emprise de l'Église catholique sur la vie, sur nos consciences, même tout en respectant bien évidemment aujourd'hui l'Église dans l'état où elle se trouve. Mais enfin, ça n'a pas toujours été le cas. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont de la bouteille, aller en Pologne, c'est un peu revenir en enfance, au temps des soutanes, des confessionnals, du péché véniel et du péché mortel. Mais
peut-être encore plus puissant. Il y a une emprise considérable de cette église. Alors bien sûr, on va fustiger les abus d'innocence, les abus de confiance sur les enfants, sans perdre de vue quand même que cette pédophilie ne doit pas nous faire oublier la pédophilie mentale, hein, celle de la pub sur nos enfants, par exemple. C'est une autre forme d'abus de confiance. Celle de ces marques qui, à peine, la maman qui vient de donner le jour à un enfant se retrouve dans la chambre de la maternité. Elle a sur la table de chevet à côté des cadeaux offerts par Nestlé ou par je ne sais quelle marque. Donc là aussi, il y a abus quand même d'innocence, de confiance, etc. Il faudrait étendre peut-être la notion de pédophilie à d'autres domaines de la vie que ceux-là. Mais ceux-là sont quand même pas mal du tout. Mais vous le savez, la chair est faible, mon fils. Attention aussi à une chose en matière de pédophilie, c'est la mythomanie victimaire. On a rencontré cette mythomanie victimaire à plusieurs reprises dans la basse et j'y suis. Donc attention aussi à certains lynchages qui peuvent être extrêmement dangereux. Donc, en tout cas, actuellement, la Pologne est en proie à ces questions. Il y a un certain déclin, tout relatif, de l'emprise de l'Église, évidemment plus en ville que dans les partie plus rurale, notamment du sud de la Pologne, où l'Église, les prêtres et les religieuses, il ne faut pas oublier, cornettes et soutanes, ont encore énormément de pouvoir. C'est notre sujet jusqu'à 16h, ou presque, dans la base, si j'y suis. Laissez venir à moi les petits enfants.
On commence ?
D'accord. Pouvez-vous présenter ?
Non.
D'accord.
Wychowałam się w dużym mieście, w Warszawie i chodziłam jako dziecko na religię, która jeszcze wtedy nie była w szkole, tylko odbywała się w sali katechetycznej przy parafii. Powtarzam, w dużym mieście.
Donc moi j'étais élevée dans une grande ville. J'allais au cours des catéchismes, comme tout le monde, mais ce n'était pas encore à l'école. C'était dans une salle où j'allais, mais je rappelle que c'était dans une grande ville.
Elle accepte de parler, elle veut parler, mais elle veut rester anonyme. Elle a presque une petite cinquantaine d'années, peut-être. Elle est journaliste. Elle est rare d'avoir envie de parler. Elle fait partie de ceux qui essayent de faire bouger en ce moment, et ce pays, et cette église, et cette emprise de cette église sur la vie, en disant, racontant ce qui lui est arrivé.
Nasz ksiądz katecheta był postacią dla nas niemalże półboską. Były to lata komuny, niczego nie było w sklepach.
Donc notre prêtre pour nous c'était un semi-dieu parce que on vivait très modestement. C'est le prêtre qui nous distribuait toutes sortes de choses, des fruits, et des charcuteries, donc des choses qu'il y avait rien. Il y avait une pénurie totale dans les magasins, donc c'est par lui qu'on avait plein de choses.
Miałam wtedy może 11, może 12 lat i zauważyłam zauważyłam, że ksiądz ma taki dziwny zwyczaj, że bardzo lubi właśnie dziewczynki, mówiąc wprost.
Moi, j'avais 11-12 ans. Pour moi, c'était un petit peu surprenant que le prêtre, il aimait bien nous toucher. Sous prétexte des chatouilles, des choses comme ça. Pour moi, dans ma tête, c'était le prêtre, c'était quelqu'un qui ne pouvait pas nous faire de mal.
Co więcej, on miał swoje mieszkanie na plebanii, czyli przy kościele, i tam zapraszał pojedynczych uczniów. Na szczęście nigdy nie byłam u niego sama.
Puis il invitait les enfants un par un. Individuellement dans sa maison à côté de l'église dans l'appartement où il habitait. Fort heureusement, j'ai jamais été invitée chez lui individuellement. Le prétexte de ses visites, c'était que c'était les leçons particulières de chorale. Donc je ne comprends pas comment on peut faire des leçons de chorale avec un seul élève.
Proszę jeszcze wziąć poprawkę na to, że w latach 70. kościół, a więc księża, byli największymi autorytetami, integrowali społeczność parafialną.
Et il faut pas oublier que à l'époque communiste, donc les prêtres, ils avaient une notoriété absolue. Ils intégraient les gens autour d'eux, donc les gens allaient les voir pour n'importe quel problème avec une confiance absolue.
Że po latach, pod wpływem jakiegoś wydarzenia, wstrząsu, dla mnie to była słynna wypowiedź arcybiskupa Michalika. Kiedy nagle odkrywa się taka klapka w mózgu i po latach wiem, to było czarne, to było białe, to było złe, to było dobre, po wielu latach.
C'est justement, c'est beaucoup d'années plus tard, suite à un déclic qui s'est fait dans la tête, suite à un événement quelconque. Dans mon cas, c'était justement la phrase prononcée donc par Monseigneur Michalik, tout récemment, qui a déclenché dans ma tête, qui a fait un réflexe et que je me suis rendu compte de ce que j'ai vécu.
Były dwie wypowiedzi arcybiskupa.
Il y avait deux déclarations.
Pierwsza, ta najbardziej szokująca, sprzed bodaj 10 dni, kiedy on powiedział, w tym zagubieniu lgną do osób dorosłych, prowokując pewne zachowania.
La première fois, Monseigneur Michalik avait dit, il y a une dizaine de jours, que c'est justement les enfants dont les parents sont divorcés ou séparés, que les enfants sont perdus, et dans cet état, quand ils sont perdus, ils collent, ils cherchent les personnes adultes, et ils se collent à elles, et c'est qu'ils provoquent un peu cette proximité.
Druga wypowiedź, też dość nieszczęśliwa, to jest wypowiedź sprzed wczoraj. Kiedy z kolei winą za pedofilię.
La deuxième phrase malheureuse que Monseigneur Michalik avait prononcée, c'était il y a 2-3 jours, quand il a mis la responsabilité de la pédophilie sur la féministe.
Et pourquoi donc?
Aucune idée. Aucune idée. Je ne sais pas, vraiment.
C'est la faute du divorce, c'est la faute des enfants, c'est la faute des femmes, ouais. Mais ce n'est pas la faute des prêtres ni
non,
de l'Église.
Pas du tout, pas du tout, pas du tout.
Le pape appelle à lutter avec détermination contre la pédophilie au sein du clergé.
Euronews, 5 avril 2013.
François s'est exprimé pour la première fois sur ce sujet extrêmement sensible. Chaque année, le Saint-Siège reçoit près de 600 plaintes pour des abus commis pendant les années 60, 70 et 80. Les auteurs de ces crimes étaient le plus souvent mutés ou même protégés par des prélats. Inacceptable pour certaines associations de victimes qui ont porté plainte contre le Vatican auprès de la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Des victimes qui exigent que le nom des prêtres responsables d'abus soit publié sur Internet et que les cas d'abus soient systématiquement signalés à la police.
Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Bardzo serdecznie o tej porze pozdrawiamy naszych najmłodszych słuchaczy i zapraszamy Was na audycję przygotowaną specjalnie dla Was. Po niej oczywiście wspólna modlitwa na antenie Radia Maryja.
Il fait un peu gris aujourd'hui, hein. C'est plus conforme à l'idée voilà. Qu'on se fait de Varsovie quand même. Mais c'est très beau, c'est l'automne.
Ouais, 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 là, c'est vraiment l'automne polonais.
Magnifique. Ouh, c'est là-bas?
Oui.
Ah, d'accord. Énorme
Bah oui.
Pain de sucre qui apparaît dans la brume. Oh, on y fait. Voilà, ça y est. Ça se dessine devant nous un énorme cube surmonté d'un dôme en construction En construction ou pas?
Oui, j'arrive pas à voir.
Ça n'a pas l'air très très fini en haut. Mais en tous les cas, c'est déjà surmonté d'une croix.
Ah oui.
Et c'est énorme, c'est au bout de cette longue, longue avenue toute droite. Cette quatre voies. Et voilà, c'est devant nous. Ah, on peut pas se tromper. Il y a une croix en béton qui fait 30 mètres de haut. Il y a un ouvrier là-bas, mais il y a du boulot. Parce que
il y a deux ouvriers.
Si c'est lui qui fait les peintures.
Il y a quelques ouvriers, donc a priori, les travaux sont poursuivis.
Alors, c'est quoi le projet de ce temple de la Providence?
C'est parce que l'église n'avait pas un temple assez grand, en fait. Donc, il fallait un projet gigantesque pour prouver la puissance de l'église, comme ça s'est toujours fait. Pourquoi on a construit des églises énormes, gigantesques, des temples, etc. C'est pour prouver la force et la puissance.
35 millions de fidèles, 28 000 clercs, 28 000 prêtres, 9 990 paroisses.
Et c'est sûr que, vu qu'un Polonais compte et les gens sont de plus en plus pauvres, hein, donc il y a beaucoup de pauvreté avec la crise et ces inégalités qui se créent, les gens quand même, ils voient que l'Église leur demande beaucoup et que tous les services rendus par l'Église sont extrêmement chers. Donc c'est ça.
Mais c'est quoi les services rendus par l'Église?
Les mariages, les baptêmes, les... Pour se marier, ça coûte très très cher, tout coûte très cher. Et bien sûr, à la messe, à chaque fois, il faut donner l'argent. Et les gens regardent si on donne des pièces ou si on dit la messe silencieuse.
La bonne messe,
c'est la messe pour les curés, c'est la messe silencieuse parce qu'il n'y a pas de pièces qui tombent. C'est des papiers.
Il n'y a que des billets.
Voilà. Donc voilà.
Ah, s'il y a de la ferraille. Mon père, il mettait des boutons de braguette dans le. La quête.
Ah. Et surtout, avant, c'était un petit peu naturel. Mais maintenant, avec le pape François, ça devient visible. C'est pathologie, en fait. Parce qu'avant, c'était considéré comme quelque chose de naturel. Que les évêques roulaient en voiture de luxe, que c'était le luxe partout... Cette surabondance de tout, cet argent qu'il faut donner partout, donc c'était quelque chose d'admis. Donc du coup, on commence à en parler un peu.
Ratować od grożącej mu katastrofy.
Alors ?
Elle est belle, cette église, regarde ça.
Elle est où, là ?
Là-bas, on regarde.
Ah, c'est pas le temple de la Providence, mais quand même, hein, il y a...
Ah oui, mais regarde ça, du vrai béton.
Ah oui.
On voit le clocher.
Voilà.
Certaines sont affreuses. Celle-ci, ça va.
Ouais. Oui, ça va. C'est pas mal, notre petite église, là. Oh, mais quelle est cette voix?
J'ai l'impression qu'il y a la messe qui va commencer. On entend un haut-parleur. Et puis il y a des ouailles qui se pressent vers l'église.
Oh là là, impressionnant quand même, hein. Une église genre moderne.
Là, il y a un petit haut-parleur devant la porte de l'église, alors un peu façon mégaphone.
Alors au temps du communisme, il y avait les dissidents. Et bien au temps de la Pologne actuelle, il y a des dissidents aussi. Et c'est des prêtres. C'est des prêtres. C'est le père Lemanski qu'on va rencontrer. Il n'a pas le droit de parler à la presse polonaise. Mais comme nous ne sommes pas polonais, eh bien, il a bien voulu nous parler. Il est en conflit avec sa hiérarchie, avec son évêque, pour oser critiquer son église. Et il nous reçoit gentiment avec la soutane, presque une petite image nostalgique en l'écoutant. Est-ce que vous êtes dans votre paroisse ici?
Ale w wyniku decyzji mojego biskupa zostałem pozbawiony prawa posługi w tej parafii.
J'appartiens à cette paroisse, mais en fait, j'ai pas droit par la décision de mon évêque de faire la messe et d'exercer.
Alors, pourquoi?
Powiedział, napisał, że moja krytyczna postawa wobec Kościoła jest zbyt krytyczna i jest postawą niszczącą Kościół.
Donc l'évêque il a dit que ma position vis-à-vis de l'Église est trop critique et que ça détruit l'Église.
No, to jest bardzo wielowymiarowe, bo to zależy od tego, jakie negatywne wizerunki Kościoła.
Donc ça dépend en fait parce que j'ai réagi sur ce qui se passe sur le moment. C'était le cas en 2000 où je considérais que l'Église polonaise n'a pas pris le soin de répondre à ce que demandait Jean-Paul II et de faire le vrai dialogue avec les Juifs.
Przepychu w kościele, tak? Czyli, czyli nadmiernego bogactwa duchowieństwa i biskupów wobec wiernych, którzy żyją raczej w skromnych warunkach.
Donc un des sujets importants, c'est la richesse trop voyante des évêques et des hiérarchiques de l'Église par rapport aux fidèles qui sont plutôt de conditions très modestes.
I trzeci taki bardzo ważny wymiar to jest ten, który teraz ujrzał światło dzienne, to są krzywdy wyrządzane przez duchowieństwo dzieciom i osobom wykorzystywanym seksualnie.
La troisième dimension, c'est ce qu'on voit surtout en ce moment, c'est justement toutes les souffrances, les histoires d'abus sexuels.
No, mamy świadomość tego, że te wypowiedzi zarówno arcybiskupa Michalika, jak i arcybiskupa Hozera, arcybiskupa Kowalczyka,
ce qui est essentiel, donc toutes ces, en fait, ces déclarations, ces prises de parole par plusieurs archevêques polonais, ils essayent en fait de stopper, de bloquer ce qui est absolument nécessaire, que l'Église se purifie, se libère de tout ce passé. Il faut faire un bilan de tout ça.
I dlatego ja próbuję przypomnieć biskupom, że krzywdy raz wyrządzone i powinniśmy ukarać tych, którzy te krzywdy wyrządzili.
Moi, la position que je prends et que je défends, c'est que, au contraire, l'Église devrait réparer tous les torts que ces souffrances que nous avons provoquées par un soutien psychologique, mais il faut punir les coupables et il faut donner des réparations financières aussi, des dédommagements aux victimes. Donc il faut correctement en finir.
Mais à commencer par la justice.
Ale my mówimy o dwóch różnych wymiarach. Prawo obowiązuje i na przykład jest okres przedawnienia, przed prawem.
Selon la loi polonaise, 15 ans, c'est le temps de prescription. Au bout de 15 ans, il y a la prescription des faits.
Natomiast odpowiedzialność Kościoła, według mnie, nic nie umniejsza tej odpowiedzialności.
Par contre, je soutiens que même 60 ans plus tard, la responsabilité de l'Église est toujours là et rien ne la diminue.
Mniej chodzi o odpowiedzialność tego konkretnego człowieka, bo to jest przestępca, to jest być może człowiek chory.
Par contre, il y a une autre chose, c'est le délit de l'Église qui, en sachant les faits, déplaçait ses prêtres à un autre endroit, dans un autre endroit, où ils continuaient à faire la même chose.
La pédophilie dans l'Église est un sujet tabou en Pologne. Peu de médias enquêtent dessus. La plupart des victimes refusent de parler.
J'ai été violé et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait.
France 24.
J'avais 13 ans et je ne savais même pas ce que c'était le sexe.
17 mai 2013.
Quand j'en ai parlé à mes parents, ils m'ont dit que j'avais tout inventé et m'ont demandé de partir de chez eux.
Wojciech affirme avoir été abusé sexuellement à 9 ans.
Ce qui me dérange le plus, c'est que ce prêtre continue de travailler avec les enfants. Il les prépare à la première communion. Son évêque sait qu'il a commis de tels actes, mais il ne l'a pas empêché de travailler avec les jeunes.
Ces hommes disent connaître des centaines d'autres cas et accusent l'Église de protéger les prêtres pédophiles.
Entre le presbytère et l'encens sanctifié.
Entre le presbytère et l'encens sanctifié.
Quelques gouttes par terre arrosent la soirée.
Quelques gouttes par terre arrosent la soirée.
C'est l'heure du dîner pour les enfants de cœur.
C'est l'heure du dîner pour les enfants de cœur.
C'est le moment de chanter comme est grand le Seigneur.
C'est le moment de chanter comme est grand le Seigneur.
Il faut leur rappeler qu'à genoux c'est meilleur.
Il faut leur rappeler qu'à genoux c'est meilleur.
Qu'il ne faut pas se fier au goût et à l'odeur. Alors dormez, baigneurs, dormez. Fermez vos jolis yeux, c'est le prix à payer pour que je sois heureux. Dormez, dormez, dormez. Quelle étrange prière disent les enfants au cœur. L'hostie à goût amer, elle nous donne mal au cœur. Secret confessionnel pour l'honneur du salut.
Secret confessionnel pour l'honneur du salut.
Secret professionnel pour une histoire de chut. Ne dites rien de peur que se fâche le Seigneur.
Ne dites rien de peur que se fâche le Seigneur.
Et ne vous fiez pas au bruit et à la douleur.
Et ne vous fiez pas au bruit et à la douleur.
Alors dormez, baigneurs, dormez. Fermez vos jolis cieux, c'est le prix à payer pour que je sois heureux. Dormez,
dormez.
Мне zależy na tym, aby zmienić prawo w tym kraju, aby przestępstwo pedofilii nie przedawniało się nigdy.
Moi, mon objectif est de changer la loi en Pologne pour que le délit ou le crime de pédophilie ne soit jamais prescrit.
Contre la prescription.
Oui.
Na tę chwilę przepis w Polsce stanowi, że osoba wykorzystana w dzieciństwie, dziecko wykorzystane.
Aujourd'hui, la loi dit qu'un enfant qui a été abusé sexuellement, il peut chercher la justice durant 15 ans depuis les faits ou 5 ans depuis sa majorité, à partir de sa majorité.
Pedofil w momencie popełniania czynu na dziecku tak naprawdę skazuje dziecko na dożywocie.
Agatha se bat avec son association contre la prescription. Elle vient d'expliquer qu'il limite à 15 ans les plaintes qui peuvent être déposées, considérant, c'est ce que considère Agatha et d'autres, bien sûr, que ce genre de crime se développe très lentement dans la mémoire, dans l'histoire d'un individu, et le traumatisme ne peut pas se limiter à 15 ans en arrière, c'est sa conviction. Elle se bat aussi évidemment contre la pédophilie au sein de la toute puissante église polonaise, qui, il faut le dire au passage, n'a pas à payer d'impôts. C'est une institution extrêmement puissante, bureaucratisée, profondément enraciné dans ce pays. On parlait de Radio Maria tout à l'heure, qui est liée à cette église catholique. Radio Maria bénéficie d'aides accordées l'Europe, par les fonds structurels européens, notamment à travers une école de journalisme qui est liée à cette radio. C'est quelques idées de la puissance de l'église et le courage de ceux qui la combattent.
Pédophile, w momencie popełniania czynu na dziecku, tak naprawdę skazuje dziecko na dożywocie.
Un pédophile, au moment où il fait un acte d'abus sur un enfant, en réalité, il condamne l'enfant à la perpétuité.
Ofierze, aby zaczęła o tym w ogóle mówić, aby była na tyle silna, naprawdę zajmuje bardzo wiele lat.
La victime, en fait, pour qu'elle puisse en parler, ils lui font énormément de temps. Parfois, ces gens n'en parlent jamais.
Z mojego doświadczenia wiem i widzę na podstawie maili, telefonów, Facebooka, że jestem niejednokrotnie pierwszą i jedyną osobą.
Et je sais par les mails, par les courriers, par Facebook, donc les informations que je reçois, que très souvent, je suis la première personne à qui ces personnes n'ont jamais avoué les faits.
No, na pewno ponad setka już w tej chwili jest takich osób.
Aujourd'hui, j'ai plus d'une centaine.
Te wszystkie osoby, które do mnie piszą, tak naprawdę piszą o tym samym.
Toutes les personnes qui m'écrivent en réalité écrivent de la même chose, hein? La même chose.
Ja mogę odczytać nawet wiadomość, którą dostałam, żeby dać to jako świadectwo, że to, co mówię, jest prawdziwe.
Mm-hmm. Donc je peux vous lire un exemple de message pour vous témoigner que ce que je raconte, c'est vrai.
Witam. Piszę do pani, ponieważ widziałam panią w telewizji i wiem, że przeszła pani podobną historię jak ja.
Bonjour, je vous écris parce que je vous ai vu à la télé et je sais que vous avez vécu le même genre d'histoire que moi.
Mam w tej chwili 39 lat. Padłam ofiarą pédophila pierwszy raz kiedy miałam 8 lat.
J'ai maintenant 39 ans. J'ai été victime d'un pédophile la première fois quand j'avais 8 ans.
Był to proboszcz z mojej parafii.
C'était le curé de ma paroisse.
Później w wieku 12-13 lat byłam gwałcona przez mojego niedoszłego ojczyma.
Après, quand j'avais 12-13 ans, j'étais violée par mon beau-père.
Moja prośba do pani może wydać się dziwna, ale jeśli można, to jak pani poradziła sobie z tą traumą?
Ma demande peut-être peut vous sembler bizarre, mais si vous voulez, je voudrais savoir comment vous avez réussi à vous débarrasser de ce trauma.
Mimo że upłynęło tyle lat, ja wciąż mam koszmary, nawracającą depresję i kilka prób samobójczych za sobą.
Même si le temps passe, moi j'ai tout le temps des cauchemars, des dépressions à répétition et plusieurs essais de suicide.
Nie mam z kim o tym porozmawiać, dlatego piszę do pani.
J'ai personne à qui je peux en parler, c'est pour ça que je vous écris.
I takich maili jest bardzo wiele. Te osoby nie wiedzą, co mają zrobić, nie mogą sobie w tym życiu poradzić.
C'est exactement, c'est des mails comme ça que je reçois, beaucoup. Ils sont très nombreux. Et ces personnes ne savent pas comment s'en sortir.
Każde doświadczenie grzechu jest trudne. To nie ma wątpliwości, bo to jest właśnie ta troska, instrukcja, że mamy zaczynać informację czy wprowadzenie w życie seksualne dziecka od przedszkola. To jest horrendalna rzecz, przecież trzeba pomóc i dziecku, i rodzinie być mocniejszą.
L'archevêque Joseph Michalik a fait des déclarations tonitruantes, enfin qui a eu beaucoup de... ont secoué le pays concernant la pédophilie, où il dit que oui, mais c'est à cause des parents qui divorcent, ce qui rend les enfants très fragiles, et ce qui fait que les enfants fragiles deviennent très affectifs, et puis se précipitent sur les prêtres. Voilà, c'est en gros, je caricature à peine. Ça a beaucoup quand même remué l'opinion en Pologne. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
To znaczy, że to wywołuje wspomnienia. I jak usłyszałam słowa księdza arcybiskupa Michalika, to siedziałam w tym domu przy tym stole, jak dziecko, płakałam przez kilka godzin.
J'ai entendu la déclaration de l'archevêque. Alors ça a remué en moi des souvenirs et que j'ai pleuré ici toute seule dans ma maison pendant plusieurs heures. Parce que c'est mes parents ont divorcé. Mais j'ai collé à personne, j'ai provoqué personne et j'étais victime d'un pédophile sans scrupules.
Arcybiskup Michalik robi to, co robi i jakaś część również księży. On tłumaczy pedofila, tłumaczy pedofilię.
L'archevêque Michalik, lui, il explique. Donc il n'y a pas à justifier. Pourquoi un pédophile fait ça? Et tout simplement, on n'a pas droit de le faire. C'est interdit par la loi.
Halo, halo.
Cześć Boże.
Cześć Boże. Jak masz na imię?
Agnieszka.
Witam Ciebie, Agnieszko. Skąd do nas telefonujesz?
Cécile et Marc Lecomte du Colombier assurent la coordination de la communauté catholique francophone de Varsovie à la paroisse Saint-André Saint-Bobola. Francophone, on s'est dit avec Antoine, voilà un endroit où on va peut-être avoir quelques explications, quelques prises de position sur ces phénomènes fâcheux quand même. Abus d'innocence, pédophilie au sein de l'église polonaise. Voilà notre dialogue avec le prêtre.
Bonjour. On cherche le père Thomas.
Namsze? Tomaszewski?
Tomaszewski.
O, tutaj trzeba po schodkach.
Tak, 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 tak,
tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, c'est-à-dire l'histoire des déclarations tonitruantes de votre hiérarchie concernant les histoires d'abus sexuels dans l'Église. Je ne peux pas compter sur vous pour faire des commentaires là-dessus, même si c'est une question brûlante et dérangeante.
Bien sûr, il faut dire que nous pouvons parler des faits lorsque l'enquête judiciaire va confirmer tout cela. Maintenant, ce sont des accusations, peut-être vraies, peut-être fausses, je néglige. Et si elles sont vraies, c'est un scandale, c'est un péché. Et selon notre arrangement, nous avons traité des choses qui concernent la vie paroissiale. Heureusement, ça ne fait pas partie de la vie de notre communauté.
C'est quand même des questions préoccupantes. Vous ne pouvez pas être seulement enfermé sur votre petite paroisse et ne pas regarder ailleurs ce qui se passe et ne pas avoir une considération personnelle. Vous êtes quand même un maître de morale, c'est vous qui guidez le troupeau.
C'est un grand désastre. Nous prions la miséricorde de Dieu. Il faut voir qu'à l'Église, c'est déjà saint Paul le raconte, chaque parti a ses devoirs. Dans la prière, nous confions tout. Les dirigeants, les juges, les évêques, tout. Mais déjà pour rentrer, pour s'exprimer, pour juger, il y a quelqu'un d'autre qui a le privilège ou la mission de juger. C'est pour ça que je ne rentre pas dans le détail. Merci.
Quand un archevêque déclare que la responsabilité dans ces affaires-là est la responsabilité des parents et des enfants eux-mêmes, c'est quelque chose qui vous choque parce que ça a choqué tout votre pays.
Vous voulez continuer votre jeu, mais je
c'est
vous
pas
dis,
un jeu, c'est mon travail.
Mais, bien sûr, mais mon devoir, c'est de dire, je n'ai pas de compétence de m'exprimer sur ce sujet tellement brûlant. Le mal est le mal, c'est un crime, on pourrait dire, mais ce n'est pas moi de maintenant m'exprimer
d'accord,
sur ces choses-là, surtout que ce n'est pas encore, certaines choses sont sous l'investigation, sous la recherche judiciaire.
On a rencontré le père Lemansky, que vous devez connaître,
Lemansky,
qui lui prend position très très clairement, malgré les pressions de son évêque.
Ça ne fait pas partie de la vie de notre communauté francophone.
Ah.
Absolument.
Non, on essaye d'avoir des opinions, nous, c'est tout. On essaye d'avoir des opinions différentes.
Je ne suis pas chargé de...
D'accord. On ne va pas vous torturer davantage. Ok, merci beaucoup en tout cas.
Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc łona Twojego Jezus.
Comment il s'appelait déjà le gars qui s'était fait apporter de l'eau et pour se laver les mains. Peut-être un peu de savon aussi. Voilà. Merci à tous. Quoi qu'il en soit, laissez venir à moi les petits-enfants. Troisième volet du reportage à Varsovie de Antoine Chao et de votre serviteur. Merci à tous. Merci à notre traductrice et amie Eva Assufine. Merci au prêtre Wojciech Lemansky. Et à Jean-Yves Potel aussi, qu'il faut citer pour un bouquin remarquable, « La fin de l'innocence, la Pologne face à son passé juif », aux éditions Autrement, dans la collection Frontières. Jean-Yves Potel est un très très fin connaisseur de la Pologne. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission « Là-bas si j'y suis ». Vous pouvez également écouter cette émission sur le site là-bas.org, là-bas.org, ainsi que sur la page Facebook de l'émission, où vous pouvez faire un tour à la technique aujourd'hui. David Federman et Hélène Langlois. Le montage, c'était Guillaume Giraud. L'émission a été réalisée par Jérôme Chélius et Franck Adhérer, préparé avec Jonathan Duong. Et Stéphanie Fromentin attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. On se retrouve demain à 15h pour là-bas si j'y suis, toujours en Pologne. Demain, on va parler du gaz de schiste, de la lutte contre le gaz de schiste en Pologne. Tout de suite, je vous laisse avec Hervé Pochon pour son temps de Pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de Pochon, mais ça ne va pas durer.
Bob, il est dans le consensus. sur le mois de décembre, j'ai eu des propositions de l'Espinasse qui voulait faire un grand papier sur le foie gras et les huîtres bourrées d'OGM.
Bonjour à tous et bienvenue aux éditions du Crayon où on fête les deux ans de Ciné le mensuel et la sortie de Ciné journal pré-posthume aux éditions du Cherche Midi.
Qu'est-ce que vous faites là, Catherine ?
On est en train de préparer le sommaire des prochains numéros, mais c'est un peu compliqué.
C'est les huîtres des quatre saisons, ça. C'est les huîtres transsexuelles, si on peut dire. Bon, c'est un bordel général.
Comment vous savez tout ça sur les huîtres ?
Parce que pendant 20 ans, j'ai été chroniqueur gastronomique au journal Le Monde. Jusqu'à la fin novembre 2012, et j'ai eu l'occasion de regarder ça d'extrêmement près, en enquêtant, en voyant des ostréiculteurs, en voyant des... Puis en les goûtant, parce que c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Les huîtres, théoriquement, le cycle de l'huître, c'est d'être... Elles sont grasses pendant l'été, parce que il y a ce qu'on appelle du lait. En réalité, c'est la période où elles se reproduisent. Donc, si on les manipule génétiquement, par des procédés qui sont soit chimiques, soit de chauffage des naissins, c'est-à-dire des toutes petites huîtres, on les transforme, voilà. Et donc, de diploïdes, elles deviennent triploïdes. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas se reproduire, elles sont stériles, en fait. Donc, maigres toute l'année. Alors, très astucieusement, le marketing des agriculteurs appelle ça les huîtres les quatre saisons. Mais c'est pas naturel, disons.
Eux, ce qu'ils m'ont même dit un jour, c'était des huîtres génétiquement modifiées, mais naturellement.
Mais voilà, oui, alors, naturellement, parce qu'on les chauffe, les naissins, ou bien il y a un processus chimique, ça, j'ai jamais réussi à déterminer exactement qui faisait quoi et où ça se fait. Enfin, si, on sait où ça se fait, dans les écloseries. Mais en réalité, c'est un processus un peu comparable à ce que fait Monsanto avec les graines. Hein, c'est-à-dire que ces huîtres-là, pour qu'elles ne se baladent pas dans la nature, or... Il a été démontré que même triploïde, elle pouvait se reproduire. Alors c'est le bordel absolu.
C'est ça, parce qu'on fait tout un foin pour Monsanto avec son maïs transgénique, mais oui. Pour les huîtres, on s'écrase.
Silence radio. De toute façon, il y a 80% de mortalité dans les parcs à huîtres, et c'est une profession qui est sinistrée. Alors on n'en rajoute pas, et puis eux-mêmes, ils n'ont pas intérêt non plus à faire trop de foin là-dessus.
Quoi. Mais vous en mangez encore des huîtres, vous ?
Ben oui, mais je sais les reconnaître, celles qui sont triploïdes de celles qui ne le sont pas. Elles ont un petit ergot au niveau du pied, du bout de l'huître. Il y a un petit ergot qui remonte. Quand ça remonte, c'est une triploïde, c'est sûr. Alors, très astucieusement, certains les cassent à coups de marteau, mais on voit tout de suite si ça a été modifié. Mais notre société, elle bricole tout. Tous les produits sont en vocation à être bricolés, modifiés, transformés. Tout ça, pourquoi ? Il faut quand même le rappeler. Une huître triploïde, elle devient...
Triploïde, ça veut dire qu'elle est modifiée. Hein.
Elle est modifiée, oui. C'est-à-dire le naissin, c'est-à-dire l'embryon, il est modifié et elle va être prête à être vendue au bout de 2 ans, au lieu de 3 dans les parcs. 1 an de gagné, c'est évidemment une rentabilité meilleure. Voilà, donc tout est là. Mais c'est la même chose que pour le cacao, pour des tas de trucs, etc. Bon, voilà. C'est un sujet qui n'est pas développé, qui n'est pas clair, qui n'est pas débattu. Hein, voilà.
Heureusement que France Inter est là.
Absolument, tout à fait.
Et je peux avoir votre nom ?
Jean-Claude Ribaud.
Merci.
J'ai été pendant 20 ans complice de Desclozeaux, où nous faisions chaque semaine dans Le Monde, moi un papier sur la gastronomie, et lui un dessin où il prenait toujours... Quand je parlais de la chasse, il prenait la défense des animaux, etc. Enfin, c'était un numéro très au point.
Très bien. Et alors maintenant, vous êtes dans Ciné le mensuel.
Ciné le mensuel, puis d'autres, on a d'autres collaborations dans différents journaux gastronomiques, professionnels et grand public également.
Merci Jean-Claude Rivaud. Et à côté de vous, il y a Véronique Brocard qui, à elle, a quitté Télérama pour Ciné le mensuel, où les temps sont durs, il faut le dire. Mais on trouvera sur le site comment aider le journal à survivre. Alors aujourd'hui, Véronique, vous conseillez à des jeunes de faire du journalisme ?
Moi, je dirais que oui, parce que c'est quand même le plus beau métier du monde. Moi, je m'en lasse pas. J'ai eu ma carte de presse en 79 et je m'en lasse toujours pas. Donc, je trouve que c'est le plus beau métier du monde. C'est-à-dire que c'est quand même l'endroit où on peut regarder le monde, rencontrer des mondes. Voilà, c'est un poste de vigie et de social extraordinaire, politique extraordinaire, et à la fois un poste où vous êtes complètement nourri par le rapport, par les rencontres avec les autres. Donc, c'est un métier formidable. Et moi, je dis oui. Le problème, c'est qu'après, il y a le monde du travail. qui évidemment dans lesquels s'installent les journaux. On sait que beaucoup, beaucoup de propositions d'emploi qui sont faites à des jeunes journalistes, c'est sur le web, souvent pour bâtonner des dépêches, et c'est peut-être pas trop ça qui, au départ, était l'idéal de leur travail. Bon. Mais c'est, puisque les grands journaux connaissent des difficultés, que des choses qui pensaient être inscrites dans le temps commencent à avoir des problèmes, on peut imaginer très bien que des journaux comme Cinémensuel, mais comme je pense à Charles, je pense à tous ces à des revues, mais qui sont des revues journalistiques, à un développement, un foisonnement de choses qui peuvent être portées par justement des jeunes journalistes et qui peuvent fonctionner.
Ouais, bon, un temps de pochon, c'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve demain.
Inter et la Criée Théâtre National de Marseille présentent du 5 au 9 novembre l'invasion Pierrick Sorin. Artiste excentrique, insolent et libre, joueur fou, inventeur d'images, Pierrick Sorin envahit la Criée sur le Vieux-Port. Il y installe son œuvre poétique et rebelle comme un forain. Performance, spectacle, installation visuelle et sonore. Une fête joyeusement technologique, étonnante et spectaculaire. Retrouvez Pierrick Sorin dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Soirée Courtweil avec la sublime Anne-Sophie Van Auteur.
Un concert de Radio France à vivre le 15 novembre à 20h, salle Pleyel.
Avec l'orchestre philharmonique de Radio France, dirigé par H.K. Gruber.
Tous nos concerts au 01 56 45 16
et sur concert.radiofrance.fr.
Vous écoutez France Inter, il est 16h. Le point sur l'actualité avec Maxime Debs.
Une séance à l'Assemblée qui débute sous les applaudissements. Cet après-midi, le patron de l'hémicycle, Claude Barthelone, a ouvert les débats en évoquant la libération des otages français au Niger. Accueilli cette libération dans la joie par les députés, tous bords confondus. Députés qui ont pu vivre, comme beaucoup, le retour de ces ex-otages au pays. À la mi-journée, leur avion a atterri à Villacoublay, où les attendait le chef de l'État, mais aussi les familles, heureuses forcément. Cette libération qui suscite également des questions. La France a-t-elle payé les ravisseurs ? Non, assure Paris. Le Monde ainsi que des sources au Niger assurent que oui. Une somme de 20 millions d'euros est même évoquée. Par ailleurs, on apprend cet après-midi que le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire en France, et ce pour enlèvement et séquestration en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste. Ce qui est publié est absolument délirant, extrêmement grave si les faits sont avérés. Jean-François Copé s'interroge et demande des explications, comme tous à droite aujourd'hui. Selon le magazine Valeurs Actuelles, qui sort demain en kiosque, il existerait à l'Élysée une cellule anti-Sarkozy, un cabinet noir chargé de déstabiliser des personnalités de droite. Témoignage à l'appui. L'Élysée aujourd'hui se défend de ces accusations. Un rassemblement devant le Sénat cet après-midi. Une centaine de personnes ont répondu à l'appel des syndicats, notamment FO et la CGT. Elles demandent, ces personnes, au gouvernement de reculer sur la réforme des retraites, comme il l'a fait sur l'écotaxe. Tant que l'allongement de la durée de cotisation sera inscrite dans le texte, la réforme restera inacceptable et intolérable. C'est ce que déclare le numéro 1 du syndicat Force Ouvrière, Jean-Claude Mailly, qui participait au rassemblement. La Tunisie n'avait plus connu un attentat de ce type depuis 2002. 11 ans, aujourd'hui, un kamikaze s'est fait exploser sur une plage sans faire d'autres victimes, heureusement, près de la station balnéaire de Sousse, dans le centre-est du pays. Par ailleurs, selon les autorités, une autre attaque suicide a été déjouée, celle-là à Monastir. Un jeune homme en possession d'explosifs aurait été arrêté près du mausolée de l'ancien président Bourguiba. En Chine, la police continue de privilégier là aussi l'hypothèse terroriste après l'explosion d'une voiture sur la place Tiananmen à Pékin. Aujourd'hui, 5 suspects ont été arrêtés. Pour rappel, l'explosion lundi a fait 5 morts et une quarantaine de blessés. La qualification de Gilles Simon pour les 8e de finale du Masters 1000 de Paris-Bercy. Cet après-midi, le Français en a battu un autre, Nicolas Mahut, en 3 manches. Le score 6-4, 6-7, 7-6. Gilles Simon qui retrouvera au prochain tour l'Espagnol David Ferrer.
Deux personnages dans l'adversité, deux grands interprètes. Invité François Cluzet en solitaire.
Putain de merde ! Comment t'es monté ? Qu'est-ce que tu fous là ? Oh !
Et James Thierry, mes séances de lutte.
Tu voulais de la cour de récré ? De la bagarre ?
De la bagarre, t'appelles ça de la bagarre?
Oui. Ou de la lutte.
On aura tout vu samedi à 10h.
La lutte, c'est silencieux comme le tango. On doit seulement se battre. Tu me parles trop.
Avec Christine Masson.
Et Laurent Delmas.
France Inter. La voix est libre.
À 16h04, d'ici quelques secondes, c'est bien sûr l'heure de Carrefour de l'Odéon avec Frédéric L'Odéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Maxime Debs. On vous retrouve à 17h pour d'autres informations. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Ben voici un beau violoniste, il s'appelle Sergueï Khatchatryan, il est né à Yerevan en 1985, en Arménie donc bien sûr. Il a décroché le premier prix du 8e concours Jean Sibelius en décembre 2000 et puis il a gagné aussi le prestigieux concours international Reine-Elisabeth de Bruxelles et depuis il fait une très belle carrière, assez souvent avec sa sœur Louzine qui joue du piano. Les voici tout de suite dans un extrait de la sonate de César Franck, peut-être une de ces sonates qui ont inspiré Proust, puisqu'on célèbre maintenant la naissance de la recherche du temps perdu cette année. Mais peut-être que c'est la sonate de Franck et puis quelques autres bribes de musique qui ont frappé au cœur ce génie. Allegro, poco, mosso. Thank you.
Finale de la sonate pour violon et piano de César Franck par Sergueï Khatchatryan, ou Khatchatryan comme vous voudrez, ou même Khatchatryan comme il faudrait dire, et sa sœur Luzine. Eh bien, ce jeune virtuose a gravé le concerto de Khatchatryan, qui faudrait aussi prononcer donc Khatchatryan, mais bon voilà, on a l'habitude de dire Khatchatryan et ou Khatchatryan, et ce sera demain qu'il va pouvoir montrer tous ses talents, demain à la salle Pleyel, c'est jeudi, ce sera à 20h avec l'orchestre du Capitole de Toulouse, dirigé par Tougan Sokiev. Donc ce concerto qui avait été magnifié par David Oistrakh, David, le personnage copieux, le roi David, comme on l'appelait, formidable violoniste qu'admire énormément d'ailleurs Sergueï Khatchatryan. Et il se trouve que le jeune Sergueï avait enregistré ce concerto avant l'âge de 20 ans, on a toujours cet enregistrement. Donc demain, salle Pleyel à 20h, salle Pleyel, c'est...